Europe 1, près de chez vous.
Bonjour Joël Giraud.
Bonjour.
Plusieurs sujets à passer en revue avec vous ce matin sur Alpe 1. Vous êtes intervenu en haut lieu sur la situation spécifique des zones frontalières pendant cette période de crise sanitaire, une situation qui touche évidemment nos territoires avec la frontière franco-italienne et les échanges constants entre nos deux pays. Vous demandez notamment une meilleure circulation sur cette zone, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce que en fait, on a autant de cas différents qu'il existe de relations au travers de la frontière. Et le gouvernement a pris une mesure qui est très bonne, qui évite en fait la quarantaine, c'est-à-dire les 14 jours d'immobilisation aux personnes qui viennent sur le territoire français en provenance d'Italie. Alors ça, c'est une très bonne chose parce que ça règle un certain nombre de problèmes. Parce que sans ça, par exemple, les médecins du centre hospitalier d'Oyonnax, si on avait appliqué la loi, auraient été dans une situation où ils venaient grâce à une dérogation dont ils disposent côté italien. Mais arrivant à Briançon, aurait dû faire 14 jours de quarantaine avant de prendre leur service.
Vous imaginez un peu compliqué.
C'est un peu compliqué, oui, n'est-ce pas? En revanche, il y a d'autres situations qui sont plus compliquées à résoudre. Par exemple, une maman qui accouche en France est toujours soumise à la quarantaine côté italien quand elle revient chez elle. Donc, c'est des situations où, en fait, personne n'a prévu de la réciprocité. Moi, j'avoue que je suis un peu sidéré par le fonctionnement des instances européennes en ce moment, parce que ce genre de choses, ce n'est pas à chaque pays de les prendre, mais bien de le prendre dans un cadre européen de réciprocité. Ouais. Il y a encore mieux, c'est pour ce qui concerne, j'allais dire, les cas comme votre député, mais également beaucoup d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Nous n'avons plus un train côté français. Le TGV va refonctionner à partir du 11 mai côté italien, le TGV Paris-Oulx, ouais. Turin. Mais pour aller le prendre, c'est justement le régime italien qui nous pose problème. Parce que si vous rentrez sur le territoire italien, vous avez des obligations de quarantaine. Vous devez, si vous restez moins de 72 heures, avoir une attestation de votre employeur qui lui-même se trouve en France. Et quand vous revenez d'Italie en France, c'est-à-dire tout ça dans l'espace de 15 kilomètres, vous êtes à nouveau embêté. Donc, j'ai demandé quelle était la procédure légale pour prendre le train. C'était uberois. Il faut 5 documents traduits par traducteur assermenté, de façon à passer les frontières françaises et italiennes. Quand on est revenu au temps incroyable. C'est pour ça que je pense très sincèrement qu'il faut qu'il y ait quelques corridors comme ça. Il soit déterminé. Alors, c'est pas forcément la responsabilité du gouvernement français, j'en suis bien d'accord, mais c'est sa responsabilité de négocier pour cela, de façon à ce que l'on puisse librement circuler, parce que la plaisanterie avec les trains qui ne circulent pas côté Briançon va durer jusqu'en juillet. Donc, on ne va pas rester jusqu'en juillet à demander 5 papiers traduits en italien avec des dérogations pour arriver à tout simplement faire 15 kilomètres en Italie pour prendre le TGV français.
On reste dans la circulation justement. Vous ne pensez pas que pour cet été, la barrière des 100 kilomètres va desservir notre territoire touristique?
Je pense que la barrière des 100 kilomètres va être petit à petit aménagée. On essaye d'ailleurs de le faire, mais il est évident que la barrière des 100 kilomètres, sans ça, pour nous, c'est nous priver de 100% de notre clientèle et de 100% également des résidences secondaires. Donc on est en train de regarder, on est dans un groupe de travail sur le tourisme justement. Des mesures vont être annoncées, alors le comité interministériel du tourisme oscille entre le 14 et le 18 mai, je ne sais pas encore la date précise. Nous avons de notre côté fait des propositions dans le cadre de ce groupe tourisme, notamment pour quelque chose qui semble évident, c'est déjà que les résidences secondaires puissent, entre guillemets, changer de résidence pour aller dans leur résidence secondaire. Ça me semble quand même la moindre des choses. D'ailleurs, ça va poser des problèmes aux communes. Comment voulez-vous facturer l'eau et l'assainissement à des gens à qui on dit de ne pas venir?
Ça va être compliqué.
C'est très compliqué, en effet. Bon, et puis au-delà, il y a un problème de droit. Je veux dire, vous avez un domicile, vous avez souvent deux domiciles. Vous savez, il y a beaucoup de résidences secondaires, en fait, qui sont des bi-résidents. Ils sont pendant tout l'hiver chez eux, et puis ils viennent pendant tous les mois d'été dans les Alpes. Donc on ne peut pas considérer tout à fait que c'est un flux touristique géant qui déboule. Et puis au-delà, bien évidemment, avec ces problèmes de frontières italiennes, dans le rayon des 100 km pour Briançon, il y a Turin, et avec les restrictions que je viens de vous indiquer. Je vois mal tout le monde avoir un vrai faux employeur côté Briançon pour avoir un papier ou une dérogation. Cela étant, là aussi je vais être franc, Le week-end dernier, les supermarchés briançonnaient. Il y avait beaucoup de gens italiens venus dans leur résidence secondaire et finalement, personne ne leur a rien dit. Mais je crois qu'une société et un produit touristique ne peut pas se baser sur simplement des arrangements. Il faut que les choses soient claires et que nous arrivions à quelque chose qui, cet été, impose certaines mesures barrières. Et je pense que d'ici au 2 juin, qui est la deuxième date, je dirais, de déconfinement, nous arriverons quand même à avoir quelque chose de raisonnable. Il n'y a de toute façon dans le tourisme alpin pas que des endroits où nous sommes les uns sur les autres. Et réunissant le Conseil national de la montagne l'autre jour avec mes collègues élus, mais également socio-professionnels, syndicats et autres, on a utilisé l'image de la cordée. La distanciation, elle est obligatoire quand vous êtes obligé d'avoir une corde entre chaque personne. Oui. Donc on peut faire de la distanciation sociale chez nous. On peut en faire aussi sur les plages de Serre-Ponçon. J'ai d'ailleurs déposé des amendements en ce sens. Voilà, je veux dire, il faut pas transformer, parce que tout ça a été très anxiogène. Paradoxalement, plus encore en France que dans les pays plus touchés comme l'Italie. Je ne sais pas si c'est le fait que les télévisions non-stop vous ravagent des trucs sans arrêt et qu'au bout d'un moment, ça vous rend cinglé. Je dois dire que, enfin, quand vous regardez quel est le caractère anxiogène des Européens, les Espagnols ne le sont pas alors qu'il y a une catastrophe sanitaire, les Italiens le sont moins alors que ça a été quand même dramatique ce qui s'est passé chez eux, les Français le sont plus. Donc, je crois qu'au bout d'un moment, oui à la précaution, mais non à quelque chose qui serait une peur panique, je dirais, de recevoir tout simplement des gens sur notre territoire. C'est toute notre économie qui s'effondre.
Le bilan après le Conseil national de la montagne, plutôt positif. Vous avez pu avancer sur pas mal de sujets.
Ben, on a avancé sur des sujets économiques déjà. Par exemple, comme vous le savez, il y a beaucoup de petites entreprises en montagne sans salariés qui n'avaient pas le droit au fonds de solidarité. On est arrivé à faire bouger le gouvernement là-dessus. On a fait des propositions très claires et très nettes pour la réouverture des espaces montagnards et des refuges, et oui. Parce que ça c'est aussi important. Et pas plus tard qu'avant-hier, la ministre, qui était venue d'ailleurs dans le Briançonnais, Madame Vargon, Emmanuelle Vargon, oui. C'est entre guillemets auto-saisie du sujet, parce que bon, elle connaît bien l'environnement et la montagne, pour coordonner les actions en la matière et faire en sorte que ce qui nous sépare du 2 juin nous serve, j'allais dire, de tête pour retourner en montagne à la journée et qu'on ait d'ici là des principes un peu simples, mais décentralisé, c'est-à-dire que où les préfets et les maires décident ce qui est possible dans un refuge, parce que les refuges, il y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y en a, c'est des hôtels de luxe. Je pense notamment dans les Alpes du Nord, j'en vois bien. D'autres, c'est une cabane où le confinement est quand même pose problème. Donc il faut faire un minimum d'aménagement ou limiter la fréquentation. Donc avec des réservations obligatoires. Avec des mesures qui sont, vous êtes obligé d'emmener vos affaires de couchage, parce qu'on fournit plus d'affaires de couchage, parce que comment voulez-vous désinfecter les affaires de couchage quand vous êtes à 3000 mètres d'altitude. Alors, avec ces principes simples, on va y arriver, et un préfet va coordonner tout cela. C'est le préfet de Savoie que l'on connaît bien dans les Hautes-Alpes, puisqu'il est ancien secrétaire général de la préfecture, Louis Laugier, et nous allons arriver à quelque chose qui soit à la fois harmonisé sur le plan des principes, mais décentralisé dans son application, parce que oui, c'est comme pour la réouverture des restaurants.
Ben justement, j'allais le dire, il serait quand même grand temps de penser au déconfinement des restaurants, des bars, des hôtels, parce que là, ça va devenir aussi très compliqué.
Hein. Ben oui, c'est très compliqué. Donc d'ici la période qui nous sépare du 2 juin, c'est bien pour ça, moi je compte beaucoup sur ce comité interministériel du tourisme, il faut arriver à des solutions qui sont des solutions simples. Les maires ont à prendre des arrêtés concernant les établissements recevant du public. Faisons quand même confiance un minimum aux maires. Je l'ai été pendant des années. Enfin, on essaye toujours de trouver des équilibres intelligents. Aucun maire n'a envie qu'il y ait des problématiques sanitaires sur son territoire. Et tous les maires connaissent bien la situation. Là, on va pouvoir étendre une terrasse parce qu'il y a suffisamment de place devant sur une place publique pour pouvoir faire de la distanciation. Eh bien, prenons la mesure le plus rapidement possible et puis tout ira bien. quand ce sont des restaurants, je dirais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, il faut être clair. Après, il y a des visions qui sont territoriales. Moi, on s'est battu contre l'Union des métiers de l'industrie hôtelière au niveau national, alors que c'est pas du tout la position du local, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de réouverture rapide des terrasses. Évidemment, une terrasse à Paris, il n'y a pas plus confiné. Quand vous vous asseyez, vous avez la fesse gauche sur le voisin, la fesse droite sur le voisin. Bon, quand on est en une terrasse dans les Alpes, en général, la prestation correspond plutôt à profiter de l'espace. Donc, ça n'est pas la même chose. Et là, il faut se battre à la fois contre des préjugés gouvernementaux, mais également contre les fédérations nationales des différents représentants qui ne représentent pas tous la même chose. Vous savez, quand le président d'une association de restaurateurs, il a 3 étoiles Michelin et un restaurant à Paris, je crois pas qu'il connaisse très bien les problématiques de la petite terrasse qui est au bord du refuge ou au bord du restaurant en montagne. Le syndrome n'est pas que un syndrome chez les politiques, donc chez les professionnels aussi. Mais... Donc voilà, petit à petit, si vous voulez, nous avons nous avancé. On a un cahier des charges sur tout ce qui relève du tourisme en montagne, mais aussi de l'économie montagnarde, y compris d'ailleurs sur la problématique des salariés, parce que les salariés saisonniers, il n'y a pas de montagne sans travailleurs saisonniers. Donc pour revenir sur des dispositions qui avaient été prises, c'est déjà fait à titre temporaire et qui mettaient les gens en situation de grande précarité, mais avec un été dont on ne sait pas ce qu'il va être, les gens vont être encore plus en grande précarité. Donc il faut effectivement qu'il y ait des filiers de secours au niveau du chômage, qui ne soient pas tout à fait les mêmes qu'au niveau national, parce que là c'est des contrats qui ne reprennent pas, c'est pas tout à fait la même chose que des contrats que l'on interrompt avec du chômage partiel. C'est des contrats où finalement les gens se retrouvent à n'avoir pas été embauchés. Donc voilà, il y a tout un tas. On a 2 petites pages de revendications synthétiques où on a beaucoup travaillé tous ensemble et qui sont, adoptées de manière unanime pour que tout simplement la montagne redémarre, mais en toute sécurité. Et je continue à croire que dans des espaces comme les nôtres, c'est possible.
Bref, encore du pain sur la planche, Joël Giraud.
Je le crains.
Voilà. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous ce matin sur Alpe 1. Merci à vous. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Alpe 1, près de chez vous.